Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Chanteurs, artistes, citoyens, la société civile continue de donner de la voix, notamment par le biais de collectifs, comme The Freaks, dont la dernière tribune a paru vendredi 28 novembre dans le journal Le Monde. Et parallèlement, la Convention citoyenne, née à l'issue du grand débat national, poursuit ses travaux dans un contexte marqué par de nombreuses attentes sociales et environnementales. Que peut-on espérer de ces actions? Aux paroles et demandes exprimées par ces citoyens, l'exécutif répondra-t-il par des actes forts? La société civile a-t-elle un pouvoir réel entre les mains? Avec nous, pour en parler, les chanteurs Fra et Sama du groupe Chaka Ponk. Bonjour.
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 Vous êtes les initiateurs de The Freaks. Samuel Leré à vos côtés, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du plaidoyer à la Fondation Nicolas Hulot. Et également, autour de cette table, Mathilde Imer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coprésidente de Démocratie Ouverte, membre des Gilets Citoyens et membre du comité de gouvernance de la Convention Citoyenne pour le Climat. Et puis dans l'œil du monde planète, c'est Rémi Barou, journaliste des pages Planète du journal Le Monde, qui nous fera découvrir un moment vécu dans les coulisses de la Convention Citoyenne. Et enfin, en deuxième partie d'émission, l'escale verte sera celle du paléontologue australien Tim Flannery. Il est de passage à Paris, scientifique impliqué lui aussi dans le devenir de notre Terre. Il partagera avec nous son regard sur son pays, l'Australie, mais aussi sur l'Europe, le super continent dont il nous offre une histoire naturelle parue chez Flammarion. À ses côtés, on retrouvera l'interprète Michel Zlotowski. Bienvenue à tous. Émission Le magazine de l'environnement de France Culture préparée par Anaï Morales avec la complicité de Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang, réalisée par Alexandra Malka avec à la technique aujourd'hui Audrey Guélil.
Rassurez-vous, c'est pas la fin du monde ce soir. C'est la fin du monde demain. Mais le jour où ça va vraiment arriver, on va tous chier dans notre froc. Sincèrement. Et puis, on va pleurer. On va pleurer parce qu'on aura peur. Et on va pleurer surtout parce qu'on savait que la fin du monde, c'était demain.
C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses.
L'accord contre le réchauffement climatique vient d'être voté à l'unanimité.
Extrait d'une vidéo The Freaks 2019, une tribune parue dans Le Monde du 28 novembre, un mouvement, un élan des artistes français qui s'engagent pour l'environnement. Fra et Sama à vos côtés du groupe Chaka Ponk, est-ce qu'on peut dire que vous êtes effectivement les initiateurs de The Freaks?
Oui, on peut dire qu'on a lancé l'idée en échangeant avec la Fondation Nicolas Hulot. En fait, on les a rencontrés après une tournée et ils nous ont dépeint un tableau un peu catastrophique de la situation, mais avec plein de bonnes idées et plein d'espoir justement en fonction des envies qu'on aura tous. Et donc on leur a proposé, nous, de rassembler des artistes, enfin des gens qui ont des gros réseaux,
des
personnalités, ouais, autour d'une liste de comportements qu'on a établie avec eux, avec leurs experts, et de faire en sorte que ces personnalités s'engagent au quotidien et pour toujours. Donc c'est pas un challenge, c'est vraiment, c'est pour ça que ça a été un peu long. Ils prenaient la décision de s'engager pour toujours sur le maximum de ces gestes et puis de le partager sur leur réseau.
Alors cette rencontre, c'était pas hier. Vous, la prise de conscience, elle remonte quand même à quelques années. On peut dire, Sama, vers quoi, 2015, c'est ça?
Oh, ça fait même bien plus longtemps que ça. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'on a toujours été très concernés par l'écologie. Enfin, ça touche tout le monde. Mais cette fois-ci, on a voulu aller plus loin parce qu'on a considéré que chanter, ça ne suffisait plus. Et on avait besoin d'agir, d'aller plus loin, surtout après cette rencontre, effectivement, avec la FNH, on s'est dit, là, il faut faire quelque chose, il fallait trouver un truc à agir. Comment agir? Et c'est ce qui nous a semblé le plus à portée de main pour nous.
Et pourquoi la rencontre avec la FNH, Fra? Parce que vous cherchiez à comprendre quelle était déjà votre empreinte carbone avec les tournées, avec votre vie d'artiste?
Un peu. En fait, on relayait des initiatives, comme plein d'artistes, hein. Donc en gros, la FNH lançait des idées super bien. À l'époque, c'était My Positive Impact, c'était une de leurs idées. Et puis, on recevait des mails, en fait, aidez-nous. Puis nous, on était entre nos studios, nos tournées et tout ça, et nos singes. Et oui, parce qu'on a des singes.
Pas enfermés, en tout cas.
Non, ils sont au plein air, en plein air. Et on relayait, et puis on sentait bien que c'était un peu des bouteilles jetées à la mer, et que c'était pas suffisant. Alors surtout, il s'est passé un truc dingue un jour. On leur a proposé de relayer en faisant un concert. C'est-à-dire que quand on était en pleine tournée, on leur a dit, mais plutôt que de faire des posts, on va en parler pendant les lives. Donc, on s'était mis pendant la tournée à faire des petits discours au milieu des concerts, ce qui est un peu difficile à placer, mais qu'on arrivait à faire un peu de manière théâtrale. Et en fait, ce discours un petit peu qui expliquait la situation et qui essayait de sensibiliser les gens, on se rendait compte que les gens étaient hyper réactifs, ils se mettaient à hurler de bonheur, et à la fin, ils jetaient tous leurs gobelets en plastique en l'air, et il y avait 10 000 gobelets en plastique par terre, alors qu'ils étaient contents de sauver la planète. Donc on s'est dit, concrètement, tout le monde a envie, mais personne ne sait comment faire. Donc on est allé voir la FNH pour leur demander leur avis sur la situation.
Samuel Leray, la FNH, donc très impliqué et qui abrite ce collectif The Freaks, c'est ça ?
On les abrite, on parle beaucoup avec eux, on les a aidés à élaborer les gestes et puis aussi à pouvoir donner une liste de gestes, mais aussi d'expliquer les actions que ça pouvait entraîner, parce que pour des artistes, c'est pas forcément simple de prendre la parole, de porter des convictions, surtout aujourd'hui. Donc l'idée aussi, ça a été de pouvoir rappeler ce qu'était le dérèglement climatique. C'était, on appelle ça des formations entre nous, mais c'était leur donner les moyens de pouvoir porter et d'aller au-delà des personnes que nous, on peut toucher à la Fondation. C'est pouvoir que chaque artiste puisse toucher tous les fans qu'il connaît et pouvoir transmettre ce message qu'on partage tous et ce combat pour la transition écologique.
De savoir de quoi on parle en plus, parce que mine de rien, il y a quand même des choses qu'il faut savoir assez précises pour que ça avance vite.
Donc finalement, un collectif d'artistes, combien d'artistes engagés dans ce mouvement ?
On en est aujourd'hui à peu près à 68 et on espère que ça va se multiplier. Justement, le fait de pouvoir en parler maintenant et que ça touchera un maximum de personnes. De toute façon, plus il y aura d'artistes, de personnalités, de journalistes, de sportifs, peu importe, plus on touchera de monde. Et le but, c'est ça. En fait, c'est d'arriver chez les gens. Le but, c'est qu'on s'y mette tous et effectivement qu'on soit plus dépendant des industriels ou des politiques. Le but, c'est vraiment de se dire, bon, maintenant, arrêtons d'attendre qu'ils agissent au-dessus. Et peut-être que ça peut passer par nous.
C'est même dur.
Voilà.
Et donc, ces artistes, ça m'est élaboré, qui montrent finalement au public comment ils font, comment ils agissent eux-mêmes, sans être forcément des personnalités parfaites. Évidemment, elles ont aussi leurs défauts, ce qui est plutôt bien.
On n'est pas des experts.
Mais c'est ça. Et pas non plus des donneurs de leçons.
Tout à fait. C'est important pour nous.
Et donc, ce site, the-freaks.fr, ça veut dire que tous ceux qui veulent en être ou mieux comprendre, découvrir les 42 gestes possibles sans chercher à les faire d'emblée, peuvent commencer à prendre une part, en tout cas, dans cette transition.
Avec un quiz en ligne.
Ouais, exactement. Puis pour tout le monde, en fait, la transition, elle doit être faite pour chaque citoyen. Et puis, il faut commencer par des gestes. Il y a des choses qui sont plus simples pour certains que d'autres. Par exemple, si on rentre dans le concret, diminuer sa consommation de viande, mais manger de la viande de meilleure qualité. Il y en a pour qui c'est plus compliqué. En revanche, il y en a qui vont aller directement sur les transports parce que ils vont décider de moins prendre leur voiture et de se déplacer à vélo. En fait, l'idée des Freaks, c'est de recenser toutes les bonnes pratiques, tous les gestes qu'on peut faire et de se dire, eh ben, on est tous ensemble, on va s'engager sur des premiers gestes. Et puis, une fois qu'on aura réussi à en faire un bien, bah, peut-être qu'on en fera un deuxième, puis un troisième. Et l'idée, c'est de faire boule de neige. Et après, avec ces comportements-là, arriver à changer. Parce qu'en fait, ce qui est en jeu, et c'est ce que disait très bien Fra aux Victoires de la Musique, c'est de dire ce qui est en jeu, en fait, c'est vraiment la survie de l'humanité. Et c'est ça qui est important.
Mathilde Himmer, tout cela va aussi avec ce mouvement social. Et ce mouvement des jeunes qu'on retrouve, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Une profusion depuis maintenant plus d'un an dans cette société. Est-ce que ces mouvements-là, ça joue un rôle, ça peut peut-être servir de propulseur?
Ouais, je pense que ça joue un rôle primordial, on le voit, et je pense que c'est notamment le déclencheur du départ de Nicolas Hulot, de son ministère, a été pour nous une sorte de réveil finalement, que ce soit chez les jeunes ou que ce soit chez les plus vieux ou nos aînés, entre guillemets, et on voit se multiplier les réseaux et ces collectifs qui se créent. Moi, ce qui me fait plaisir à voir, c'est que on touche différentes strates et différentes générations. L'an dernier, avec On est prêt, on a pu faire une campagne du même type, mais surtout pour les jeunes, sur les réseaux sociaux, où on était là avec une campagne dans un temps donné, autour notamment à la fin du recours de l'affaire du siècle, qui était portée par 4 ONG, dont la FNH. Là, on voit se multiplier un nouveau collectif qui brasse plus large, qui vise quelque chose qui est sur du temps long. Donc plus on multiplie, plus ce sera source d'inspiration dans toutes les strates de la société, plus on verra un changement. Et ce que je note aussi de là où je suis, c'est que la société civile s'organise, pas seulement entre écolos, mais avec une volonté, finalement, de sortir de la petite bulle écolo dans laquelle on est parfois entre militants, pour réussir à faire une transition qui soit juste socialement et qui soit juste aussi en termes de génération.
Et donc, il y a ces fameux gilets citoyens. Rappelez-nous ce que c'est.
Alors, le gilet citoyen, c'est un collectif qui rassemble des gilets jaunes, des écolos, militants écolos, comme Cyril Dion, Laurence Dubiana, des acteurs de l'innovation démocratique, comme Loïc Blondiaux ou Jean-Michel Fourniou, pour ceux qui sont les plus connus, des élus locaux, qui se sont rassemblés suite à la mobilisation des Gilets jaunes. Et au moment du grand débat, pour faire court, le grand débat sur le papier, on trouvait que c'était plutôt une bonne idée de voir un président de la République et un gouvernement réagir en disant « Face à une crise sociale majeure, je lance un grand débat ». Sauf que la manière et les principes méthodologiques qui ont été utilisés nous ont paru plutôt dangereux en termes de démocratie participative. Et donc, on a envoyé une lettre ouverte collectivement, qu'on a tous écrit ensemble, en disant tout simplement, le grand débat, très belle idée, mais par contre, pour faire la démocratie participative, il y a certaines règles de base pour pas que ce soit du citizen washing, mais que ce soit de la vraie démocratie, et qu'on aille là, vers un approfondissement de notre démocratie, ce qu'appelaient de leur vœu les Gilets jaunes. Et ce qu'appellent, je crois, au-delà des Gilets jaunes, l'ensemble des citoyens, pas, on voit la montée du populisme, on voit les taux d'abstention monter d'élection en élection. Donc l'idée, c'était d'avoir une démocratie plus approfondie dedans. Du coup, on demandait trois choses. Plus d'indépendance et de transparence du grand débat national, ce qu'on a obtenu de la part du gouvernement avec d'autres collectifs. La mise en place d'une assemblée citoyenne tirée au sort sur trois sujets. La transition écologique, la justice fiscale et le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Et donc, on a été ensuite en contact et en échange avec le président de la République lui-même, puis avec ses équipes, pour mettre en place la Convention citoyenne pour le climat, qu'aujourd'hui hébergée par le CESE.
Alors, on va écouter justement cet extrait d'un reportage diffusé sur France 2 le 4 octobre 2019. Et on va mieux comprendre, en tout cas, on va pouvoir cerner deux des profils de ces 150 citoyens.
Grégoire Frati, 31 ans, a un enfant et vit près de Caen. Il est cadre, en formation professionnelle, et début septembre, en pleine réunion, il reçoit ce message.
Tout d'abord, j'ai reçu un texto qui m'a demandé si j'étais intéressé par la Convention citoyenne pour le climat. Quand j'ai vu que c'était une démocratie citoyenne qui se mettait en place, qu'il y avait un tirage au sort sur un échelon national, je me suis dit, bon, bah, j'ai été tiré au sort, je vais assumer, donc je vais dire oui.
Grégoire Frati le dit sans embâge, il n'est pas un expert, mais pourquoi pas le devenir ? Au quotidien, déjà, il tente d'être écolo.
Je fais rien de révolutionnaire, je sais que je pourrais en faire beaucoup plus. J'essaie de consommer local, de manger bio, de faire mon tri sélectif, de faire attention, mais je suis pas quelqu'un d'engagé particulièrement dans cette cause. Donc tout d'abord, ce que j'attends, c'est de la connaissance, des faits, des rencontres intéressantes.
De la convention, il attend aussi des mesures innovantes, mais pas trop contraignantes. Assistant d'éducation, Guillaume Robert, lui, a 23 ans. Il habite l'île de La Réunion. Un sacré bilan carbone pour rejoindre Paris, mais c'est sans doute pour la bonne cause.
Est-ce que vous êtes fier ?
Oui, je suis fier. Je suis fier de représenter mon île, représenter ma commune et de porter des idées qui pourront construire la France de demain avec les 150 citoyens.
Par son insularité, Guillaume Robert est très conscient du dérèglement climatique.
On voit de plus en plus de cyclones dévastateurs qui ne sont pas forcément plus puissants mais plus fréquents. Donc plus de fréquence, donc on n'a pas le temps de guérir entre guillemets d'un cyclone quand un autre arrive.
Les deux hommes se réjouissent d'être consultés en dehors des élections et espèrent que cette convention citoyenne ne sera pas vaine. 51% de femmes, 49% d'hommes de 16 à 80 ans. L'échantillon se veut représentatif, telle une France miniature.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Mathilde Imer, une France miniature. Il faut rappeler quand même que cette chambre citoyenne est constituée donc de 150 citoyens qui ont été tirés au sort, qui sont volontaires, hein, enfin c'est-à-dire tirés au sort, on les a sollicités, ils ont répondu oui ou non, et le tout c'était de respecter les différentes catégories sociales, l'éventail des âges, le maillage aussi géographique, pour qu'il y ait vraiment une représentation nationale à tous les échelons.
Exactement, l'idée c'est d'avoir un tirage au sort qui permette d'avoir autant de jeunes que dans la société française, autant de vieux que dans la société française, autant de peu, pas diplômés, autant d'employés, autant d'ouvriers, autant, avec un certain nombre de critères qui visent à faire quoi? C'est que, aujourd'hui, on voit bien que sur cette question de transition écologique, on bloque. On n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on sait tous, et c'est vrai pour tous les pays, hein, c'est pas uniquement en France, on n'arrive pas à faire une transition écologique qui soit suffisamment ambitieuse et socialement juste. Donc, l'idée de cette convention, c'est d'arriver à ce que les citoyens eux-mêmes place le curseur. Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller et quelles sont les politiques publiques qui font que chacun d'entre nous, on est prêt à y aller parce qu'on se sent écouté et en capacité d'y arriver.
C'est un peu votre sentiment, je crois, c'est de dire que aujourd'hui, effectivement, il y a des blocages, que cette société d'ultra-consommation, d'ultra-pollution, d'ultra-frénésie, comme vous la décrivez, et ce schéma sociétal est aujourd'hui obsolète, mais il faut pouvoir sortir de ces actions et de cette vie dans laquelle on se sent englué. Est-ce que cette chambre citoyenne, cette convention citoyenne, vous suivez ce qui se passe, ou alors, comme beaucoup finalement, elle fait son travail, mais elle a peu de visibilité.
Bah en fait c'est ça, c'est-à-dire que c'est un travail hyper important qui reste le plus important en fait des travaux concrètement à faire de nos jours. Ça fait partie de ces cellules de gens qui se mettent d'un seul coup avec de supers idées et beaucoup de bonne volonté à prendre le taureau par les cornes, mais perdu au milieu d'une foule de gens qui se rendent pas forcément compte du pouvoir qu'ils ont en fait, indépendamment de toutes ces idées, de faire leur petite révolution dans leur quotidien, multiplié par les milliards qu'ils sont. Et ça, c'est un truc qui est un peu redondant, et c'est pour ça qu'on a lancé cette idée, c'est que on en avait un peu marre. Déjà, on a été bien formés par la FNH sur le chemin à prendre, et puis on en avait un peu marre d'entendre quand on parle autour de nous, et c'est pour ça qu'on a appelé ça des freaks. C'est parce que tout le monde disait, vous êtes quand même chelou, vous voyez, alors que c'est quand même tellement clairement évident qu'il faut faire comme ça. Et donc, c'est vrai qu'on en avait marre d'entendre des personnes qui, en fait, se place en attente d'un espèce de mouvement qui pourrait d'un seul coup faire en sorte que tout s'arrange indépendamment, totalement de leur action à eux, c'est-à-dire de l'action citoyenne. Donc on essaye de faire comprendre aux gens, je ne sais pas si je dis une connerie, mais je crois qu'il y a 25% de la raison du dérèglement climatique et de la pollution qui est en fait ni liée aux politiques ni aux industriels, mais à notre consommation de consommateurs et à nos décisions d'électeurs.
Samuel Leray, vous vouliez dire quelque chose peut-être ?
Oui, juste pour dire sur ces chiffres-là, en fait, c'est chaque citoyen, chacun d'entre nous peut baisser notre empreinte carbone de 20 à 25%. Si on met un peu d'argent et si on commence à investir, par exemple, pour rénover notre logement, on peut monter jusqu'à 40%. C'est pour ça que le pouvoir du citoyen est très fort. Par contre, il ne faut pas non plus dédouaner les politiques et les entreprises, qui restent 60% du travail, puisqu'on sait qu'on doit arriver à la neutralité carbone, c'est-à-dire proche de zéro émission en 2050. Et donc, il faut que chacun d'entre nous, et c'est ce qu'on porte avec les frics, de dire chacun d'entre nous, on peut faire des gestes, on peut s'engager et on doit le faire, c'est le pouvoir des citoyens. Mais à côté, il y a le devoir des entreprises et le devoir des politiques. Et là aussi, c'est à la Convention citoyenne qui va devoir agir et qui va devoir prendre des mesures fortes et proposer des mesures fortes. Et on espère que le président de la République tiendra sa promesse de donner sans filtre tout ce qui arrivera de la Convention citoyenne.
Ce qu'on essaye de faire comprendre aux citoyens, c'est que c'est impossible théoriquement que des initiatives comme la Convention citoyenne ou n'importe quelle initiative de cette qualité puisse avancer assez vite si nous, on les aide pas en essayant de montrer la meilleure pétition du monde, celle qu'on fait tous les jours au quotidien en refusant certains produits et en décidant de consommer autrement. Ça, c'est aussi ça qui va pousser les industriels et les politiques à changer leur fusil d'épaule.
On y revient dans un instant, juste après avoir écouté à nouveau ces témoignages, puisque ces 150 citoyens donc travaillent par session, par séance. Ils sont censés définir d'ici fin janvier des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Extrait d'un reportage diffusé sur France Info TV le 18 novembre 2019.
Il y a des discussions de fond sur certains sujets sur lesquels bah, ils ne sont pas d'accord. Quoi. Ils voient les choses d'une manière très différente parce qu'ils n'ont pas les mêmes histoires et ils n'ont pas les mêmes points de vue, tout simplement.
Cette convention citoyenne, c'était une des réponses du gouvernement après la crise des Gilets jaunes. Et l'une des leaders du mouvement était hier auditionnée, Priscilla Ludowski, se dit satisfaite par cette nouvelle formule.
C'est une des choses qu'on avait proposées à François Durugy quand on l'a rencontré. On lui avait demandé de créer une assemblée citoyenne. Donc c'est une réponse partielle. C'est intéressant de voir des gens travailler comme ça sur des mesures qui normalement relèvent que des institutions. Je ne sais pas comment, c'est inédit.
Parmi les premières pistes, la création d'une banque du climat ou encore une révision de la Constitution. Il reste encore 3 week-ends de travail. Les propositions de la Convention seront présentées au gouvernement fin janvier 2020.
Mathilde Himmer, qu'est-ce qui ressort de cette convention, des premiers travaux ? On n'est pas au bout. Et puis, possiblement, position de l'exécutif, bien sûr.
Pour rebondir en premier lieu sur ce que disait Fra tout à l'heure, qui est tout à fait juste, on sent dans les 150 citoyens qui ressortent le fait qu'ils sont prêts à faire beaucoup plus individuellement. Et d'ailleurs, certains sont inspirés par l'initiative des Freaks. Par contre, ils sont prêts à certaines conditions, c'est-à-dire que chacun joue le jeu. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Comment est-ce qu'on inverse le cercle pour que ça devienne demain un cercle vertueux ? Aujourd'hui, où on en est dans cette convention citoyenne, il y a eu 3 week-ends. Le premier week-end, c'était le week-end du diagnostic scientifique. On a entendu, ils ont entendu des scientifiques, notamment du GIEC, qui leur ont exposé là où on était, du changement climatique. Ça a été, en gros, pour la majorité d'entre eux, la grosse claque, parce que la majorité sont conscients, même si on a des climato-sceptiques, du problème du changement climatique, mais l'urgence et l'intensité, pas du tout. Le deuxième week-end, c'était les obstacles. où là, on a fait venir des acteurs d'horizons très différents, dont Samuel qui était présent, pour donner à voir quels sont les obstacles que les différents acteurs rencontrent. Entreprises, associations, syndicats, peu importe, que tout le monde en comprenne finalement quels sont les tenants aboutissants de l'équation. Et le troisième week-end qui était le plus important, les solutions, où là on a vu à la fois la mayonnaise de l'intelligence collective prendre au sein des 150 et du groupe, mais aussi les premières propositions. Donc il y en a certaines qui ont été citées dans le reportage juste avant. Il y a la révision de la Constitution, il y a comment est-ce qu'on limite ou régule la publicité sur les produits les plus polluants. Comment est-ce qu'on fait en sorte que nos téléphones portables et un certain nombre de produits aient une durée de vie plus longue, qu'on n'ait pas besoin de les changer tous les ans? Comment est-ce qu'on fait pour que les financements soient fléchés, que ce soit public ou privé, sur l'investissement vert? Il y a comment est-ce qu'on rénove nos bâtiments demain de manière plus efficace? Il y a, au niveau européen, comment est-ce qu'on fait en sorte que les accords commerciaux qu'on négocie avec d'autres pays intègrent
la question du climat. Comme le CETA, notamment.
Exactement, comme le CETA. Mais ils ont décidé de pas faire que le CETA, qui est un peu un chiffon rouge aujourd'hui, mais de vraiment réfléchir à cette question de manière plus profonde, en comprenant aussi les contraintes que peuvent avoir les États en termes d'emploi, notamment. Il y a comment est-ce qu'on sort des 3% de la règle de Maastricht, des 3% des investissements qui iraient vers la transition écologique. Donc il y a aujourd'hui, je ne vais pas toutes les faire, il y en a 90 qui sont sur la table. Là, les trois prochaines sessions, c'est comment est-ce qu'on arrive à là-dedans prioriser celles qui leur semblent les plus importantes d'un point de vue de l'impact climat, mais aussi celles qui sont, en termes d'impact juridique, les plus valables. Sur la venue et l'impact politique, est-ce que Emmanuel Macron va tenir cet engagement de passer sans filtre les recommandations, soit au référendum, soit au Parlement, soit au règlement? Évidemment qu'il y a un fort scepticisme d'une grande partie de la société, dont, à titre personnel, je ne parle pas au nom du comité de gouvernance, je fais partie, parce que je pense que c'est extrêmement compliqué quand on est au gouvernement de prendre des décisions aussi radicales que celles qui sont aujourd'hui sur la table des 150 citoyens de tir au sort.
Et du coup, qui bouleversent même le schéma sociétal dont on parlait tout à l'heure.
Oui. Néanmoins, Emmanuel Macron a décidé d'accepter l'invitation des 150 citoyens de tir au sort pour être auditionné par les 150, donc c'est plutôt un signal positif. Et puis à nous, société civile, freaks, à tous ceux qui peuvent d'en parler et de faire pression pour que ce soit finalement irrésistible et que le gouvernement ne puisse pas ne pas tenir son engagement.
Samuel Leray, alors certains disent que on peut aussi être là dans des engagements de dupes, qu'il y a peut-être de la démagogie politique, parce que on estime que les acteurs et les ONG savent déjà comment répondre aux enjeux, comment faire, et on n'a pas forcément écouté ce qui était mis sur la table. Est-ce que, de votre point de vue, et par rapport à ce que vous vivez aussi dans cette chambre citoyenne, hein, quand vous y intervenez, vous avez le sentiment que là, le risque politique de décevoir est tel que il y aura des engagements?
C'est ce qu'on espère. Vous savez, nous, à la Fondation Nicolas Hulot, outre la mobilisation et l'engagement, comme on peut faire avec ce FRIX pour que les citoyens s'engagent sur des gestes, on a toujours porté des propositions politiques pour transformer la société. Et on a parlé de la réforme de la Constitution, mais je pense que c'est un point essentiel. Parce qu'en fait, les institutions, comme elles sont faites aujourd'hui, sont faites pour penser le court terme. C'est-à-dire qu'un élu, un ministre, à chaque fois qu'il est élu, va toujours devoir donner des résultats directement. Or, tous ceux qui n'ont pas la parole, les générations futures, le vivant, eux sont toujours oubliés. Ou alors, on va en parler à la fin. S'il reste un peu de temps, on va essayer de les prendre en compte. C'est ce qu'on appelle un peu la myopie des démocraties. Et donc, du coup, on a besoin de prendre le temps. Donc, on a besoin d'avoir une constitution qui intègre ces enjeux écologiques pour que le Conseil constitutionnel puisse bloquer les lois dans le cas où elles n'iraient pas dans le bon sens. Par exemple, demain, on avait un gouvernement qui voulait autoriser l'exploitation du gaz de schiste. Et ben, on a besoin d'avoir des dispositions dans la Constitution qui bloquent ces engagements.
Donc, revoir l'article premier, notamment, de la Constitution.
De la Constitution pour y intégrer une obligation de lutter contre la biodiversité, respecter, lutter contre le dérèglement climatique et protéger la biodiversité. Et ce qui est important aussi, c'est de pouvoir intégrer cette convention citoyenne, parce que les citoyens, l'intérêt de ces 150 citoyens, c'est que eux, ils sont pas soumis au lobby, ils sont pas soumis à des pressions, ils ne sont pas soumis à une volonté d'être réélus demain, puisqu'ils ont été tirés au sort. C'est tout l'intérêt. Et c'est là où leurs préconisations vont être très intéressantes. C'est que quand on leur explique les chiffres, on leur donne la réalité de ce que disent les scientifiques, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, que ce soit sur la biodiversité ou sur le climat, et qu'on leur présente des solutions, parce que tout le monde présente des solutions. Moi, j'y suis allé, mais avec moi, il y avait la FNSEA, il y avait le PDG de Système U, donc ils n'ont pas que le
chacun
positionnement
dans son
des
secteur,
ONG.
En tout cas.
Donc, à chaque fois, ils vont pouvoir trancher de voir quelles sont les propositions de chacun et vers où est-ce que ça peut nous emmener, vu qu'on s'est tous donné, lors de l'accord de Paris, le 12 décembre 2015, un objectif, c'est de limiter le dérèglement climatique bien en dessous de 2 degrés. Et donc ça, c'est un objectif fondamental. Et donc les citoyens vont pouvoir trancher et faire des propositions.
Et en dessous des 2 degrés, selon les scientifiques, on en est très loin et on risque même de devoir revoir à la hausse ce qu'on a envisagé.
On est en pleine COP25. Donc l'objectif, c'est que évidemment, la communauté internationale commence à un peu à agir beaucoup plus fort et beaucoup plus rapidement.
Sama Ifra, passez aux actes. C'est ce que vous dites, hein, à la fois dans vos chansons et, oui. et dans vos messages. Parce que selon vous, ces citoyens, ils ont le pouvoir face oui. aux industriels, face aux politiques, ils l'ont oublié. C'est-à-dire ce pouvoir, par leur pouvoir d'achat, ouais. leur argent, leur consommation. Choix, ouais. Parce que s'ils consomment différemment, le monde de la finance va produire différemment.
On n'achète plus de bouteilles d'eau, on fera autre chose. Hein. Enfin, à un moment donné, les producteurs doivent s'adapter. Ils s'adapteront parce que leur but, c'est de gagner de l'argent. Et j'ai l'impression qu'il faut lutter pour défendre sa propre maison. On est tellement tous concernés, c'est aberrant l'attitude des industriels. Effectivement, il faut changer sa façon de consommer. S'il y a des bouteilles à acheter, ce sera en verre. Sinon, c'est l'eau du robinet. Il y a d'autres façons de faire. Et on a vraiment un pouvoir. Et je crois vraiment qu'on l'a oublié. Et c'est dommage de laisser comme ça une Greta. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les plus actifs, ce sont les ados, on marche à l'envers.
S'il n'y avait pas de solution, il fallait attendre, on comprendrait qu'on soit en train d'attendre, mais il y a vraiment des solutions, elles existent, il y a des dizaines de sites et de gens qui parlent de ça, des acteurs, des youtubeurs, les solutions, elles sont concrètes, elles sont justifiées et prouvées par des scientifiques, elles sont à portée de main. Tant que quand on est dans un rayon de magasin et que tu as un produit néfaste et un produit bon pour la planète, et tant qu'on prendra le produit néfaste, aucun industriel et aucun politique même ne se dira pourquoi faire les autres. On est en majorité sur ce qu'on a devant les yeux.
C'est vrai qu'il faut accompagner le changement. Et pour ça, il faut tous ensemble, et il faut prendre à un moment donné, les politiques doivent arrêter de penser à une réélection possible et agir
et pas gagner,
de façon responsable.
Samuel Leray et Mathilde Himmer, on parle de beaucoup de choses, de ce qu'il faudrait faire, des actions. Il faut quand même rappeler aussi que tous les foyers ne peuvent pas engager toutes les actions parce que c'est aussi de l'argent. Et que cette transition, cette révolution, elle doit aussi se faire dans une justice sociale.
Évidemment, je peux commencer. Évidemment, dans une justice sociale, par exemple, quand on est à un accompagnement, par exemple, si on parle d'agriculture, on sait que il faut manger moins de viande, mais de meilleure qualité. Aujourd'hui, Mathilde parlait tout à l'heure d'une des questions qui était la question des accords de commerce. On importe de la viande qui vient du Canada via le CETA. On importe de la viande via les pays du Mercosur et nos agriculteurs sont en difficulté. Le problème, c'est que on les met en concurrence avec des produits. Ils ne jouent pas avec les mêmes règles du jeu. C'est-à-dire que on va autoriser de la viande qui vient du Canada, qui est nourrie aux farines animales, par exemple, alors qu'on l'a interdit chez nous. Ça, c'est des choses qui n'ont pas de sens. Mais il ne faut pas non plus demander aux agriculteurs de changer du jour au lendemain. Il faut pouvoir les accompagner financièrement. Et forcément, il va falloir fixer des nouvelles règles. C'est le mot de transition. Mais plus on tarde, et plus la transition sera courte, c'est ça qu'il faut aussi retenir, c'est que ça fait déjà des années qu'on connaît ces chiffres et qu'on connaît ces nécessités de pouvoir agir. Et le problème, c'est qu'on a pris beaucoup de retard. Donc là, il faut fixer un cap clair et de l'accompagnement, et y compris de l'accompagnement financier pour transformer l'agriculture. Et c'est le même cas dans les autres secteurs.
Mathilde Himmer.
Oui, parce que la justice sociale, elle est clé. Et cette convention citoyenne n'aurait aucun sens et d'ailleurs n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu un mouvement social, qui est le mouvement des Gilets jaunes. Qu'on soit pour ou contre, peu m'importe. Ce que je veux expliquer, c'est pourquoi est-ce que c'est lié. Les Gilets jaunes se sont mobilisés sur une question qui est la taxe carbone, qui est une nouvelle taxe sur le carburant, mais qui est une taxe écolo. La révolte, elle n'est pas uniquement sur la taxe en elle-même, mais sur à quoi servent les fonds. Et finalement, de voir que la moitié des fonds de ces taxes prélevées sur les gens, quoi, sert finalement à financer ou défiscaliser un certain nombre de grandes entreprises. C'est ça qui a choqué un certain nombre de personnes qui sont allées dans la rue. Néanmoins, ça veut dire quoi? Moi, je pense profondément que les Gilets jaunes ne sont que les premiers piégés d'une transition écologique qui a trop tardé à venir. Demain, et on le voit déjà, nos agriculteurs, comme le disait Samuel, sont des gens qui se suicident massivement dans un silence absolument morbide. On voit bien que là, plus on tarde, plus la question de l'injustice sociale va être forte. C'est pour ça que dans la Convention citoyenne tirée au sort, on a tenu à ce que ce soit justement le tirage au sort qui sélectionne les gens. Pourquoi ? Parce que quand on voit les systèmes électoraux, sans dire que ça oppose des légitimités, systèmes électoraux ont tendance à favoriser les gens plutôt diplômés, qui savent parler en public, qui savent représenter. Et c'est bien, et c'est une source de légitimité. Il y a une autre source de légitimité qui est le tirage au sort, qui permet d'avoir les gens qu'on a moins à l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui sont des gens peu pas diplômés, des ouvriers, des employés, des gens qui ne votent plus. Et moi, je pense profondément que cette convention citoyenne est capable de, au contraire, rabibocher les gens avec les élus. Quand on comprend la complexité aussi de ce que ça veut dire prendre une décision sur la rénovation énergétique des bâtiments, sur la mobilité, ben on comprend un peu mieux son élu, on s'en rapproche et on évite finalement un certain nombre de dérives populistes qui pourraient arriver demain.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau. Footsteps on the floor, someone's knocking on the door. It's my turn to get a ride in summer camp. There are the days I never go. There is no more growing old. You see, it's a little like summertime. Sweet as sugar cane, warmer than a summer rain. This is where we'll meet again, sometimes. Here I'm choking on the pills. My lungs, my heart, can be feel. I watch the clock, it's ticking slow. You know it's time for me to go. Write me a letter when I'm gone.
Et oui, c'est la chanson la plus posée, comme vous disiez, Fra, des Chaka Ponk, c'était Summer Camp, la chanson la plus posée de votre dernier album, The Evil.
Oui, The Evil, oui.
Et très engagée pour, voilà, dans ces messages que vous partagez sur l'environnement. Et vous êtes donc dans notre émission avec Sama, et c'est la suite de Deux Causes à Effet sur France Culture, le magazine de l'environnement qui s'intéresse aujourd'hui aux artistes et aux citoyens unis pour l'avenir de la planète et de ses habitants. Et également avec nous, Samuel Leray, responsable du plaidoyer de la Fondation Nicolas Hulot, et Mathilde Himmer, coprésidente de Démocratie Ouverte, membre des Gilets Citoyens et membre du comité de gouvernance de la Convention Citoyenne. Et sans plus attendre, eh bien nous prenons la direction de la rédaction des pages planète du journal Le Monde. Bonjour Rémi Barou.
Bonjour.
Vous êtes notre œil du monde planète cette semaine, et puis vous allez nous faire partager un moment vécu en coulisses dans le cadre de cette Convention Citoyenne. C'était quand ?
C'est le 28 novembre. À la Recyclerie dans le 18e, où des citoyens recevaient des représentants de la Convention citoyenne en présence de Cyril Dion, qui est l'un des garants de l'indépendance de cette convention, et Thierry Pêche, qui fait partie de la gouvernance, l'un des coprésidents de la gouvernance de cette convention. En fait, les citoyens qui étaient présents, il y en avait quand même près de 200 ce jeudi soir, ils sont dans à la fois la reconnaissance de ce travail et de cette forme presque inédite, on va dire, de démocratie citoyenne, et à la fois dans une méfiance d'une éventuelle récupération politique des travaux de cette gouvernance. Et évidemment, il y a une sorte de double pression, c'est-à-dire que la gouvernance et ceux qui ont organisé la convention voudraient bien que des propositions concrètes sortent très vite, et les citoyens dans les ateliers dans lesquels ils travaillent, auxquels j'ai pu assister, eux disent, ne vous pressez pas, on veut avoir le temps d'expertiser. Ce sont des citoyens lambda, donc ils n'ont pas une connaissance absolue des grands dossiers, le logement, le transport, la nourriture, la production, et ils ont besoin de temps pour d'abord travailler, avoir des contacts avec des experts, se former, et donc sortir des propositions qui soient pertinentes et concrètes en termes de transition écologique. Donc il y a cette double injonction, à la fois soyez efficaces, et en même temps, eux, ils voudraient avoir le temps, et déjà, il y a en effet des petites tensions qui apparaissent en termes d'agenda. Après, il y a un vrai risque politique pour le gouvernement, c'est d'avoir ouvert ce nouvel outil, et de ne pas lui donner sa totale expression, et de ne pas tenir compte des propositions, ou de ne pas les mettre en application. Il y a un risque politique, d'autant plus qu'on sera à 2 mois ou 3 mois des élections municipales, et évidemment, le regard citoyen sera d'autant plus aigu.
Merci Rémi Barou, merci de nous avoir fait partager ce moment de coulisses. Mathilde Himmer, comme disait Rémi Barou, il y a un risque finalement. On a ouvert la boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'on a créé cette convention citoyenne. C'est de la démocratie participative. Est-ce que ça veut dire que dorénavant, on peut estimer que les citoyens pourront régulièrement, sur des dossiers particuliers, être tirés au sort, faire partie de séances de travail et puis donner leur opinion?
Moi, je le souhaite. Et je pense que la grande majorité des citoyens ont envie. À nouveau, on a les institutions qui datent du 19e siècle, avec une démocratie représentative. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter, ça veut dire qu'il faut mettre à jour. Mettre à jour, ça veut dire quoi? Quand on a des citoyens qui, aujourd'hui, ont un niveau d'éducation beaucoup plus élevé qu'au siècle dernier, ont pris l'habitude sur les réseaux sociaux de donner leur avis de manière beaucoup plus généralisée, c'est impensable de garder un système où on vote en gros tous les 5 ans et puis entre-temps, il se passe rien. Donc il s'agit de compléter les dispositifs représentatifs par ce type de dispositifs qui sont pas justes. Et ça, faut faire très attention. Si c'est faire de la consultation citoyenne ou de la participation citoyenne et à la fin, on n'en fait rien, c'est poubelle, clairement, ça ne marchera pas et les citoyens ne seront pas dupes. Et on l'a vu, ils n'ont pas été dupes. En revanche, si ça consiste à laisser une parole citoyenne à un espace, comme le font au niveau local beaucoup de maires, hein, avec des budgets participatifs ou d'autres outils, ou ce type d'outils comme la Convention citoyenne, où on pourrait avoir régulièrement sur d'autres sujets, avec un engagement fort en amont des pouvoirs publics sur les débouchés, ça, je pense que ça a toute sa place, à condition que les citoyens soient aussi une sorte de vigie. Et donc c'est là où c'est important que peut-être, à la fin, les 150, s'il y a besoin, si le gouvernement ne suivait pas, puisse faire un coup d'éclat de la dernière journée où ils ont un temps de réponse à la réponse du gouvernement, qu'ils puissent dire à quel point ils ne sont pas contents si ça se passe mal, ou à quel point ils sont contents et souhaitent que ça se passe à nouveau à l'avenir sous d'autres sujets si ça se passe bien.
Samuel Leré.
C'est sûr, on a besoin de prendre le temps, on a besoin de donner la parole aux citoyens, on ne peut plus faire comme avant. C'est une nécessité. Moi, j'espère que de cette convention naîtra une nouvelle manière de démocratie. D'ailleurs, ça fait un peu des petits. Hein. Il y a déjà l'Angleterre qui a annoncé qu'il ferait une convention citoyenne également sur ce sujet-là. Et puis, j'ai eu l'occasion d'aller au Canada récemment. C'est des sujets où tout le monde regarde la France, qui est un peu un laboratoire et une première expérience. Donc, un peu partout dans le monde, je pense que si ça fonctionne, ça peut déboucher sur plein de conventions citoyennes et donc beaucoup d'engagement. Mais c'est aussi la responsabilité du gouvernement. Je pense que Emmanuel Macron et nous, on avait salué à la Fondation cette décision de mettre en place cette convention citoyenne. Mais maintenant, il a une grande responsabilité et ne pas donner à ce qui sortira de cette convention. Mais aujourd'hui, personne ne sait exactement ce qui partira. On a parlé de sujets, mais pour le moment, ce n'est pas des mesures. C'est plutôt des grands sujets, des grands axes. On n'est pas sur des choses encore complètement concrètes.
Ça va se déterminer dans les semaines à venir.
Exactement. Mais il faut leur laisser le temps de travailler et de pouvoir produire des choses. Mais vraiment, la responsabilité du gouvernement est essentielle sur ce sujet.
Et pour aller dans le sens de ce que disait Samuel, nous, on a été contactés, que ce soit les citoyens ou que ce soit le comité de gouvernance de la Convention, par des Anglais, par des Allemands, par des Belges, par des Polonais, par des, j'étais hier avec des Japonais, par des Chiliens. Donc on voit que ça fait des petits. Et en fait, c'est aussi la suite, en quelque sorte, de la COP21. La COP21, c'est un accord international. Oui. Maintenant, il faut veiller au niveau national, non seulement qu'on tienne les engagements qu'on a pris à la COP21, ce qui est le cas de très peu d'États, mais qu'on aille plus loin.
Et la prochaine COP, non pas celle de Madrid, mais c'est celle de l'an prochain qui sera la plus importante, puisque c'est celle qui, à nouveau, verra les États s'engager. Du côté des artistes, on a vu, par exemple, récemment, Coldplay annoncer, renoncer à faire une tournée pour son dernier album. Qu'en est-il, rapidement, mais quel retour avez-vous de ce monde aussi des producteurs, les maisons de disques? Pour eux, c'est aussi un monde de la finance, quand même.
Au début, on s'est rendu compte que, déjà, nous, on pensait être beaucoup plus renseignés qu'on l'était. Quand on a encore encore après ce rendez-vous à la FNH, on a appris plein de choses. Au final, on était assez inculte, presque, j'irais pas jusque-là, mais...
On était nul.
On était, oui, un peu nul. Et on s'est aussi rendu compte, par exemple, que le plus polluant, c'était les gens qui venaient au concert, plus que le concert lui-même. On s'est dit, oh, c'est compliqué de demander aux gens de pas venir parce que c'est un peu mon métier. Et en fait, on a quand même réussi, après, déjà, sachant que le The Freaks, au départ, un engagement personnel dans sa vie personnelle avant de passer au professionnel. Mais une fois qu'on a pu acquérir certains gestes et arriver à maîtriser un minimum son niveau de pollution, on a commencé effectivement à parler autour de nous, nos tournées, on a baissé de 10. Voilà les déchets,
les déchets.
Et on
pas que hein, c'est voilà. Aussi tous les produits sont locaux, il y a plus rien qui a usage unique.
On a enlevé tout le plastique. Les gens se vantent d'avoir les gourdes, même les techniciens sont contents de le faire, même les producteurs disent regarde on a fait ça.
J'ai ma gourde.
Voilà.
Mais on pense forcément à des grands événements qui ont bouleversé la donne aussi, par exemple Live Aid en 1985, Bob Geldof, à ce moment-là c'était Harvey Goldsmith qui organisait ces grands événements. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, un collectif suffisamment fort à l'international d'artistes pourrait imaginer ce grand moment partagé et voir potentiellement sur les concerts à venir 1 euro même versé sur chaque billet pour la cause, dans une banque bien gérée, les fonds bien gérés, bien évidemment.
Il commence à y avoir des festivals écologiques aujourd'hui de plus en plus, et on est très content de ça, mais c'est vrai qu'on est encore très en retard. Mais on a effectivement l'espoir, ce serait formidable qu'on puisse réunir un maximum d'artistes et que les gens soient assez motivés pour venir et pour une cause, effectivement. C'est un fantasme, un rêve.
C'est le concept même de ces rassemblements, les concerts, les tournées, les festivals et tout ça, c'est extrêmement polluant. Et donc
il faut le penser autrement.
En fait, le problème qu'on vit tous en ce moment, ce n'est pas un problème de pollution, c'est un problème de mentalité. Il faut que les gens changent de mentalité. Dans ta vie personnelle, tu as tous les droits et tous les choix et tu n'as personne à convaincre. Donc, tu n'as aucune excuse de ne pas agir. Dans ce laps de temps que tu as dans ta vie personnelle, tu peux commencer à changer. À changer de manière un peu drastique quand même, parce que sinon on ne va jamais y arriver. Et en changeant, en comprenant et en changeant de mentalité, en adoptant certains gestes, en comprenant comment adopter les autres, tu vas acquérir l'expérience et la légitimité pour aller, dans un deuxième temps, à ton travail, expliquer comment faire autrement. Et c'est pour ça que, pour rebondir sur ces idées de festivals ou de gros événements qui pourraient ramener de l'argent, je pense qu'il faut le faire quand on aura compris comment faire à grande échelle ce genre d'événement en polluant le moins possible.
Et un jour, la France montrera l'exemple.
Merci à tous les quatre.
Merci.
Et bien évidemment, les liens sur votre actualité sont à retrouver, les infos sur le site de l'émission et sur le site du monde.fr. Et vous restez avec nous, hein, c'est le dernier rendez-vous de notre émission avec l'Escale Verte.
La baie de Sydney recouverte d'une épaisse fumée, un spectacle insolite mais inquiétant. Ce brouillard provient des feux d'un gigantesque incendie qui ravage 2 parcs nationaux à moins de 100 km de la plus grande ville du pays. Les habitants sont stupéfaits.
C'est le pire que nous ayons jamais eu. Je n'ai jamais rien vu de tel. On fait de bonnes photos, mais c'est la seule bonne chose à dire sur le sujet.
My nose is irritated.
Mon nez est irrité, ma gorge aussi. Quand je me suis réveillé ce matin à mon hôtel, j'ai pris un masque pour m'aider.
La situation est pire à moins de 1000 km plus au sud, dans l'état du Victoria, avec le départ de nouveaux foyers. La température qui dépasse les 40 degrés et les vents secs aggravent le risque d'incendie. 6 personnes sont mortes et des centaines de maisons ont brûlé. Les autorités mettent tous les moyens pour limiter la propagation d'un feu difficilement contrôlable.
Nous avons plus de 2000 pompiers et 300 camions qui luttent contre les flammes. 33 hélicoptères et avions sont également sur place. Nous allons nous battre avec tous les moyens pour réduire les risques de feu.
L'urgence code rouge a été déclarée dans l'État. C'est le niveau d'alerte le plus haut en cas d'incendie.
Et chaque semaine, grâce à nos invités, nous nous transportons du côté d'une ville, d'un village, d'un lieu, en France, en Europe ou ailleurs dans le monde, pour y découvrir des territoires, des initiatives, des regards aussi, avec des chercheurs, des alerteurs, des acteurs de cette transition en cours. Aujourd'hui, direction l'Australie, mais aussi l'Europe, avec vous, Tim Flannery. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléontologue et farouche défenseur de l'environnement et de la planète. Votre dernier livre paru chez Flammarion s'intitule « Le supercontinent, une histoire naturelle de l'Europe ». On entendait à l'instant ce reportage diffusé sur France Info TV, les incendies en Australie. Ce reportage date du 22 novembre dernier. Des incendies qui ont touché l'Australie et plus précisément la région de Sydney. Est-ce que c'est une conséquence directe de notre planète en plein bouleversement?
Looking short, yes it is.
Eh bien, écoutez, oui. La saison des incendies dans cette région dure 11 mois par an. Il y a quelques années, c'était 3 ou 4 mois. Il faut se souvenir que ces feux extrêmes se produisent au printemps, pas pendant l'été, pas pendant la période la plus chaude. Donc on va voir ce que l'été va faire. Mais je crains le pire, ça a déjà été désastreux.
Et alors l'Australie est un pays qui n'est pas le meilleur élève, Tim Flannery, en matière d'environnement et de lutte contre les réchauffements climatiques, on peut le dire.
Hein.
On mérite la cuillère en bois, vous savez, la cuillère en bois avec laquelle on frappait le bas du dos des équipes qui perdaient au football.
Parce que concrètement, qu'est-ce que vous vivez et quelles sont justement les politiques contre lesquelles vous vous élevez?
L'Australie est en plein cœur d'une lutte énorme pour lutter contre le réchauffement climatique. De l'autre côté, on est le deuxième exportateur de charbon au monde et un des plus grands exportateurs de gaz fossile. D'un autre côté, on a la vaste majorité des Australiens qui sont en train d'être très inquiets par la perte de la grande barrière de corail. Donc la lutte est entre le gouvernement qui écoute à l'industrie de l'énergie fossile parce que les liens entre le gouvernement et cette industrie sont très forts. Mais on arrive à un point où quelque chose doit se passer.
Et alors, comment se comporte la société civile, justement, et ceux qui donnent de la voix, les opposants, ou même vous, hein, qui pouvez aussi agir dans votre pays?
Depuis 30 ans, je tente de persuader les gens de changer. Et je dois me rendre compte que nous avons atteint très peu de nos objectifs. Et c'est à la jeune génération maintenant qui d'abord manifeste et qui ensuite se rebelle, qui ont un plus grand impact. Mon message aux pollueurs, c'est il faut que vous posiez la question. Est-ce que vous serez pardonné parce que ce que vous faites, ce crime prémédité, tout le monde connaît le coût du changement climatique que vous infligez à vos enfants et aux générations à venir. Si vous ne pouvez pas répondre avec une conscience propre, eh bien, il faudra que vous changiez. Sinon, l'avenir sera très catastrophique pour vous.
Et selon vous, Tim Flannery, est-ce que ce super continent qu'est l'Europe, et vous nous le présentez comme une terre sur laquelle le vivant s'est hybridé, le sauvage et les espèces domestiques, et ce à cause de l'homme, est-ce que vous avez le sentiment que cette Europe dont vous nous parlez dans votre dernier livre est beaucoup plus vertueuse et qu'il y a de l'espoir de ce côté-là?
C'est une histoire de 100 millions d'années. Je ne sais pas si la vertu vient en ligne de compte. Mais il y a un environnement extrêmement dynamique. C'est le lieu où l'évolution est vraiment en cours. Et on voit innovation après innovation. Et c'est encore vrai de l'Europe. Vous dirigez le monde de ce point de vue-là. Si on fait des recherches dans ces forces de l'évolution qui ont donné forme au continent, moi, j'en ai retiré quelque chose comme si j'étais en train de raconter une histoire exceptionnelle, extraordinaire.
Mais c'est ce qu'on découvre dans votre livre. Il y a du positif, il y a du négatif. Mais vous nous parlez aussi de cette évolution de l'homme au fil de ces siècles, de ces millénaires. Mais vous nous présentez aussi cet homme qui est responsable d'extinction d'espèces et qui cherche même aujourd'hui à redonner vie à des espèces disparues par un jeu d'ADN.
Aucun doute. L'humanité est une des grandes forces de l'évolution qui agit au niveau de la planète. Et on a agi comme force d'évolution depuis des millénaires, en façonnant des lieux tels que l'Europe. Mais parce que nous vivons dans un monde interconnecté, cette pression de l'évolution nous revient à nous aussi. On ne peut pas s'échapper de ce mouvement des interrelations de l'évolution. Quand je regarde cette situation, celle de l'Europe, moi, j'ai un sentiment d'acceptation. Vous savez, l'Europe, c'est le lieu de l'immigration. Au cours de millions d'années, des nouvelles espèces, de nouvelles formes de vie ont évolué, de nouveaux équilibres ont été créés. Tout ça a été détruit, puis ça s'est recréé. Ça donne un sentiment de tranquillité pour comprendre que c'est tel est l'avenir de l'Europe. Et c'est une bonne chose parce que l'Europe, c'est le lieu où tant de choses ont leur origine. Tant d'influences mondiales ont leur origine ici.
Alors, vous nous parlez aussi du réensauvagement. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont peut-être les lieux de réensauvagement que vous avez arpentés et qui vous tiennent à cœur ?
L'Europe est à la tête du monde pour le réensauvagement. Dans le sens que si vous pensez qu'il y a 70 ou 80 ans, chaque centimètre de l'Europe a été utilisé pour des productions humaines, d'une sorte ou d'une autre. Mais avec les révolutions économiques qui s'est produite après la Seconde Guerre mondiale, les lieux les plus difficiles ont été abandonnés, les vallées les plus hautes, les villages éloignés, et la nature a commencé à y revenir. Et maintenant, nous voyons que ce processus prend un envol. 20 millions d'hectares seront abandonnés en Europe et la nature va reprendre ses droits. Donc la question face aux Européens, c'est est-ce qu'il faut laisser faire ou est-ce qu'il faut aider le processus ? Et moi, je suis en faveur dans mon livre qu'il aide ce processus parce que la nature commence avec ce qu'elle a. S'il n'y a pas suffisamment de place, la végétation peut réagir de façon contraire. Donc il faut réfléchir à ces terres abandonnées, comment optimiser ce qu'on va appeler la durabilité environnementale.
Et donc ça veut dire que vous comptez sur l'intelligence de l'homme, Tim Flannery, parce que vous parlez aussi de l'homme comme un homo stupidus.
Ah ben, on est un hybride entre l'homo sapiens et l'homo stupidus.
Oui.
Alors, lequel allons-nous favoriser ? J'ai une foi énorme dans la capacité des gens de travailler ensemble, d'avoir du bon sens. Et ça arrive de la meilleure façon dont on est exposé l'un à l'autre, dont on débat, dont on discute. De cette sorte, voilà, on peut y arriver. Cette discussion peut fonctionner, ça fonctionne bien dans la politique européenne. C'est lent, c'est lourd, mais à la fin, ça nous amène dans la bonne direction.
Donc vous êtes un optimiste, Tim Flannery, même si dans votre livre, vous nous parlez de cette Europe qui est aussi celle du printemps silencieux, c'est-à-dire de la disparition des oiseaux, des insectes.
C'est l'autre côté de la pièce. D'un côté, on abandonne les terres les moins productives. De l'autre, on intensifie notre agriculture et nos travaux agricoles d'une manière qui signifie qu'on utilise plus d'insecticides, de pesticides, d'herbicides et d'engrais qui empoisonnent ces terres. Et on le voit partout, on le voit en Allemagne, en France. Les résultats ne sont pas bons pour la nature ou pour le genre humain. Donc il faut repenser à la façon dont on le fait. Moi, je suis technologiquement optimiste. Je vois en Europe, il y a les plus belles innovations dans le secteur agricole. Dans certains endroits, on voit un hybride entre le réensauvagement et la production durable. On voit aussi une intensification. Une entreprise, Solar Foods, en Finlande, cherche à faire grandir des produits agricoles dans des silos. Imaginez si on arrivait à faire cela dans des silos en utilisant l'énergie éolienne. Mais tout ça est possible. Donc, nous allons voir avec le temps.
Et ce genre de développement n'existe pas en Australie ?
Non. Imaginez un tel espace avec 25 millions d'habitants, loin du reste du monde. Les choses dans lesquelles on travaille, c'est, par exemple, c'est la compagnie aérienne. On a la meilleure compagnie aérienne du monde, mais dans les autres domaines, nos innovations ne sont pas terribles.
Alors, quand on s'est rencontré, Tim Flannery, pour l'émission La Marche des Sciences, c'était en décembre 2015, vous aviez fait l'achat d'un véhicule hybride. Où en êtes-vous de votre implication citoyenne ?
Je crois qu'il est très important de faire ce que l'on peut en tant que citoyen. Mais il faut faire très attention. L'industrie nous fasse pas porter tout le poids sur nous en tant que citoyens. Parce qu'il y a une limite à ce que nous pouvons faire. Et si nous sommes mis dans la possibilité par ce sentiment de nous sommes tous en train de travailler dans une société polluée, en utilisant des énergies polluantes. Nous sommes en transition. Ce que nous pouvons dire à l'industrie, c'est en notre nom, vous devez changer. Nous faisons ce que vous pouvez, mais vous, vous devez prendre une partie du poids.
Et votre parole de paléontologue, donc vous la donnez à entendre à ces industriels ou dans certaines tribunes. Est-ce que vous avez les moyens, vous, des leviers peut-être pour faire passer ce message? Et à l'aune, bien sûr, du travail que vous effectuez sur ces millénaires d'histoire que vous nous racontez avec cette évolution, bien sûr, et la main de l'homme.
En tant que paléontologue, j'ai un impact zéro sur l'industrie. Mais nous sommes tous des dirigeants, on peut tous être dirigeants de communautés. Vous savez, les jeunes, principalement, notre voix doit être entendue. Et il y a véritablement quelque chose de moral de très important. Il ne s'agit pas simplement de faire un profit maximum aujourd'hui ou pour le prochain trimestre. C'est nous, en tant qu'espèce humaine, êtres humains, nos relations avec nos enfants et notre société. C'est là où il y a l'espoir pour moi, nous assurer que les gens comprennent cela, que ce qu'ils font en tant que dirigeants d'entreprise ou politiciens a un impact profond sur les générations à venir, sur leur famille et sur la société qui les entoure.
Vous parliez des jeunes à l'instant. Est-ce qu'il y a également en Australie un mouvement jeune puissant ?
Plus tôt cette année, j'étais dans une manifestation à Melbourne et il y avait la plus grande foule depuis la guerre du Vietnam. 150 000 jeunes devant le Parlement en disant « ces choses-là doivent changer ». Et le gouvernement hausse les épaules. Et alors ? S'ils n'y croient pas, il ne peut pas y avoir des manifestations de ce type sans qu'il y ait des changements. Il faut trouver une façon de continuer, il faut continuer à exercer cette pression.
Et donc à l'image des artistes, des The Freaks, des Chaka Pong qui étaient dans notre première partie d'émission, est-ce que vous avez le sentiment que c'est cette société civile qui fera bouger les choses ?
J'ai écouté à ce que vous avez dit, Chaka Pong, et c'était tellement important pour moi. Ça affecte ma façon. Il ne faut pas se sentir coupable soi-même. On change ce que l'on peut, mais il faut développer cette force d'indignation. Il faut dire au gouvernement, vous êtes en train de trahir vos enfants. Ce que moi je fais, ce que je dis aux gens qui nient le changement climatique, c'est arrêtez d'élever vos enfants. Vos arguments sont vraiment ridicule, ce que vous dites, c'est dangereux.
Merci Tim Flannery.
Merci, thank you so much.
Et merci beaucoup à Michel Zodowski, notre interprète aujourd'hui. Et bien sûr, je rappelle le titre de votre livre, formidable livre, Le Supercontinent, une histoire naturelle de l'Europe, paru chez Flammarion. Et je précise pour nos auditeurs que nos coups de cœur pour cette fin d'année sont à retrouver sur le site de l'émission, comme par exemple l'Atlas des Nouveaux Mondes ou bien les Fleurs Amoureuses. Et comme toujours, vous pouvez retrouver les informations, la bibliographie, les liens sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, téléchargement, réécoute à votre disposition. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, hashtag DCAEffet ou encore sur notre page Facebook. Et dans un instant, c'est la suite de vos programmes sur France Culture, bien évidemment, avec Louise Touré et Être et Savoir.